Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Léa Sabourin, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Maëlys André, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Clément Daté. Dernier volet de notre série consacrée à la police, après avoir parlé des violences policières et des différents modèles de maintien de l'ordre en Europe, après avoir évoqué la question des discriminations raciales au sein des effectifs policiers américains et puis celle de la corruption chez leurs homologues mexicains, place au monde arabe, du Caire à Tunis, la société sous bonne garde.
La stabilité et la paix durable vont de pair avec le respect des libertés de chacun, de la dignité de chacun et d'un état de droit. Et la recherche de stabilité, de sécurité qui nous anime ne saurait être dissociée de la question des droits de l'homme. Et je ne serais pas un ami sincère de l'Égypte d'aujourd'hui si je ne disais pas le fond de ma pensée, étant pleinement conscient de toutes les différences, de tout ce qui fait l'Égypte d'aujourd'hui et de tous ses défis.
Nous devons parler clairement. Nous ne sommes pas comme l'Europe, nous ne sommes pas comme les États-Unis. Nous sommes une région qui a des spécificités et sa nature est spéciale. Il ne peut pas y avoir la même méthodologie partout dans le monde et dire que cette méthodologie est idéale, on ne peut pas dire cela.
De la conférence de presse lors de la rencontre du président français avec son homologue égyptien. Alors qu'Emmanuel Macron, en visite au Caire, a fustigé la politique autoritaire du président El-Sissi, la France a été récemment accusée par les ONG d'avoir joué un rôle dans la répression et du contrôle exercé sur la population égyptienne. En effet, des véhicules blindés ainsi que des logiciels de surveillance auraient été vendus à un régime égyptien qui l'utiliserait contre son peuple, des accusations portées notamment par Amnesty International. Depuis la chute de Moubarak en 2011 et le soulèvement populaire, les espoirs d'une révolution sont aujourd'hui anéantis. Opposants, journalistes, chercheurs, militants des droits de l'homme, toute personne représentant une menace pour le pouvoir peut faire l'objet de violences policières et les méthodes pour les faire taire sont nombreuses. Alors quelles sont justement ces pratiques utilisées par la police égyptienne aujourd'hui? Sont-elles si différentes de celles utilisées à l'époque de Moubarak? Est-ce que malgré la révolte populaire, on peut dire qu'on assiste aujourd'hui en Égypte, un retour du régime militaire, et d'ailleurs avait-il seulement vraiment disparu? Et alors que la société égyptienne semble asphyxiée par la répression, qu'en est-il de la Tunisie, le pays d'où est parti justement le printemps arabe? Quelles sont les évolutions notables s'agissant de l'action des policiers et de leur place dans le paysage politique? Voilà toutes les questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux invités. D'abord ici en plateau à Paris, Baudouin Long, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur, spécialiste de l'Égypte et puis auteur d'un ouvrage paru récemment chez Cartala, l'Égypte de Moubarak à Sissi, lutte de pouvoir et recomposition politique. Également avec nous, mais en duplex de Bruxelles, Leslie Pikmal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, chargé du plaidoyer du Cairo Institute for Human Rights Studies. Merci d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, Baudouin Merci. Long, ici à Paris. On l'a entendu, cet extrait de la conférence de presse. Emmanuel Macron a donc rencontré le président égyptien avec qui il a eu un échange, disons, assez vif autour de la question des droits de l'homme. Il a critiqué la loi plaçant les ONG sous contrôle de l'État, les atteintes à la liberté d'expression, reprochant les emprisonnements de journalistes et de blogueurs qui n'allaient pas, je cite, dans la bonne direction. Emmanuel Macron a également fait savoir que le matériel militaire vendu par la France à l'Égypte ne devait pas servir à réprimer la société civile. On a vu la réponse d'El-Sissi qui a été elle aussi très vigoureuse, expliquant qu'il était quand même devenu président par la volonté du peuple, je reprends ces termes, et que par ailleurs l'Égypte n'était pas l'Europe ou les États-Unis et que le pays avait ses particularités. Il est assez rare, Baudouin Long, que la diplomatie française soit aussi ouvertement critique à l'égard du régime égyptien, surtout qu'on sait qu'il y a évidemment des intérêts économiques très forts, que très régulièrement on passe des contrats très importants entre les deux pays, beaucoup de matériel militaire, notamment des Rafales, on s'en souvient. Pourquoi cette fois des critiques beaucoup plus direct du président français, selon vous?
C'est vrai que cette déclaration d'Emmanuel Macron en point de presse est assez inédite et assez forte. Elle fait suite, je pense, à un engagement, à une pression, à des pressions de plus en plus fortes de la part des ONG dont vous parliez sur la diplomatie française et sur la présidence pour qu'elle ne laisse pas de côté les sujets des droits de l'homme dans la relation.
La pression a toujours été forte des ONG.
Moi, j'ai l'impression qu'elle est plus forte depuis un an, voire quelques mois.
Leslie Pickmal, vous en êtes justement de ces ONG. Vous pensez que c'est cela, c'est la pression des ONG qui a poussé le président français à être aussi offensif sur la question des droits de l'homme, alors que c'est vraiment pas l'habitude de la France vis-à-vis de l'Égypte, Leslie Pickmal?
Effectivement. Alors, en partie, oui, mais c'est un ensemble de facteurs, à mon avis. Je soutiens l'interprétation de Baudouin qu'effectivement, la pression des ONG a augmenté. Mais il y a aussi, finalement, une attention beaucoup plus soutenue des médias sur cette problématique. Plusieurs mois, voire un an, un petit peu plus, et notamment également dans le contexte d'un intérêt plus important pour la question des ventes d'armes vers d'autres pays de la région du Moyen-Orient, notamment dans le cadre de la guerre au Yémen.
Ouais, il y a l'affaire Khashoggi qui est passée par là, et évidemment,
voilà,
bien sûr, c'est
également
quelque chose qui a été très en débat. Mais justement, à propos de ce matériel, Leslie Pickmal, il y a quelques mois, il y a un rapport de votre institut qui révélait comment l'État français et des entreprises françaises avaient participé, indirectement, mais en tout cas avaient participé à la répression menée par le régime égyptien. Qu'en est-il précisément? Qu'est-ce qu'on sait? Le matériel qui a été utilisé effectivement par des policiers pour réprimer, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui?
Alors, il y a tout un éventail de différents types de matériel et d'équipements. Juste pour préciser, ce rapport est de la FIDH, Observatoire des armements, Ligue des droits de l'homme et Cairo Institute for Human Rights Studies. Vous avez également d'autres rapports d'Amnesty notamment. Donc il y a des armes lourdes qui ont été vendues par la France sur plusieurs années, et notamment des véhicules blindés de marque Renault, modèle Sherpa, qui ont été employés dans la dispersion très très violente du sit-in de Rabaa al-Adawi en août 2013 au Caire, juste après le coup d'État, et qui a eu donné lieu à un massacre avec plusieurs centaines, voire éventuellement plus d'un millier de manifestants tués.
Et là, on a utilisé du matériel français.
Oui, donc là, les véhicules blindés Renault Sherpa ont été filmés, pris en photo. Ça c'est connu. D'autre part, on a d'autres types de matériel de guerre, comme les avions, les rafales, des frégates. D'autre part,
les frégates n'ont pas été utilisées pour réprimer les manifestants. Mais
non, effectivement. Voilà. Il y a par contre la question de l'implication de l'Égypte dans la guerre au Yémen, notamment dans le blocus maritime. Et donc, dans ce cadre-là, fournir des bâtiments de guerre à la marine égyptienne est aussi problématique.
Oui, oui, non, j'entends bien, mais c'est du coup une autre question quand même.
Effectivement. Mais on a également la technologie de surveillance.
Je vais y venir sur cette technologie de surveillance, Leslie Pickmal. Mais d'abord, Baudouin Long, sur cette question des armes vendues effectivement à l'Égypte. Alors, on se souvient, Leslie Pickmal nous le rappelait, qu'à l'été 2013, le président Mohamed Morsi et suite des frères musulmans avaient été débarqués par l'armée. S'en était suivi une terrible répression, à la fois au niveau des manifestants, mais aussi des opposants politiques. On a quasiment enfermé, emprisonné tous les cadres des frères musulmans. Et puis, après cet épisode, l'Europe, justement, avait décidé de suspendre les exportations vers l'Égypte de tout équipement, je cite, tout équipement pouvant être utilisé à des fins de répression interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas respecté ses engagements au niveau européen?
Je pense qu'il y a des commissions interministérielles qui gèrent ce genre de choses.
Et qui ont jugé qu'on pouvait le faire quand même.
Le Sherpa, en l'occurrence, il avait été vendu avant, mais en tout cas, c'est sûr qu'il c'est pas son usage premier, comme pour le Rafale ou autre.
Sur ce point, parce qu'effectivement, il a raison, Baudouin Long, il y a des dispositifs de contrôle, de surveillance qui permettent de valider ou non des ventes d'armes. Par exemple, en France, on a une commission qui s'appelle la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre, où sont représentés les ministères des Finances, de la Défense, des Affaires étrangères. On a validé sans aucun problème les exportations de matériel.
Oui, alors ça c'est une question très problématique également. La CIEMJ, la commission que vous avez évoquée, effectivement a autorisé différents types de ventes et de transferts d'armes ces dernières années. Et notamment, en fait, ce qui est très inquiétant, c'est quand des ventes ont été faites pour l'usage de l'armée égyptienne et qu'en fait il y a eu des détournements, puisque ce sont des forces principalement sous le contrôle du ministère de l'Intérieur qui les ont utilisés sur le terrain. Ça, c'est, on a au moins un cas très très clair où c'est bien établi que cela s'est produit. Donc on a un problème l'accès sur le terrain pour pouvoir vérifier quelle est l'utilisation finale de ces armes. De manière très significative dans le Sinaï aussi. Vous savez que le Sinaï est aujourd'hui fermé, totalement fermé d'accès aux journalistes, aux ONG de défense des droits humains. C'est l'armée égyptienne qui mène une campagne depuis plusieurs années contre le groupe Ansar Bet El Maqdis qui a fait allégeance à l'État islamique. Or, mis à part les forces armées, les services de renseignement, personne n'a vraiment accès à une information complète sur l'usage des matériels dans cette zone. Et notamment, le gouvernement français aurait indiqué à des parlementaires posant des questions à ce sujet en été 2018 et pointant du doigt les véhicules Renault Sherpa. Le ministère aurait répondu « Oh, mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, les véhicules blindés français vendus à l'Égypte sont seulement utilisés dans le Sinaï.
» Alors justement, Baudouin Long, pour se justifier, c'est vrai que les États qui vendent des armes, souvent expliquent que il faut bien fournir des armes à l'Égypte pour l'épauler dans sa lutte contre le terrorisme, qui est vraiment un combat que l'on partage, que l'Occident partage avec ces pays, et notamment avec le régime d'Al-Sissi. Est-ce que cet argument est justifié? Pour le dire autrement, est-ce que le matériel vendu permet effectivement au régime égyptien de faire reculer le djihadisme?
Il y a deux dimensions, c'est-à-dire que sur le à court terme, peut-être sur des opérations militaires dans le Sinaï ou à la frontière libyenne, les armes vendues peuvent peut-être avoir un intérêt. À long terme, on sait bien que le djihadisme est nourri se nourrit des opérations militaires très 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 dures, d'un comportement vis-à-vis de la population locale, des forces armées.
Oui, donc l'intervention de l'armée égyptienne finalement alimente le cycle de violence,
voilà.
C'est ce que vous voulez dire.
C'est ça.
Ouais. Leslie Pikmal, la question des systèmes de surveillance, parce qu'effectivement il y a une société française, en l'occurrence pour ne pas la nommer, Amesis, qui a vendu un système de surveillance à l'Égypte, alors même qu'il y avait déjà un scandale autour du marché de la surveillance électronique avec le régime libyen. Comment ça c'est possible? Comment l'État français, et quelle responsabilité pour l'État français?
C'est bien alarmant, effectivement. Donc cette société Amesis, s'est essentiellement rebaptisée sous un autre nom et a vendu effectivement le même système de technologie de surveillance.
Et là, l'État français a validé.
Voilà. Donc là, il est vraiment difficile d'imaginer que les autorités françaises n'aient pas eu connaissance, étant donné qu'il y avait effectivement cette action en justice déjà. Donc il y a vraiment une approche très problématique des autorités françaises chargées de cette décision, et c'est pour ça aussi qu'avec beaucoup d'ONG françaises et internationales défense des droits humains, nous appelons à un plus grand contrôle parlementaire sur cette problématique, plus de transparence également. Ce qui est le cas dans d'autres démocraties occidentales, même quand ce ne sont pas des démocraties parlementaires.
Baudouin Long, essayons d'établir un état des lieux des droits de l'homme en Égypte. D'abord, alors on va détailler un peu les choses, regarder ce qui a été fait pour encadrer les ONG, les nouvelles lois, etc. Mais d'un point de vue un peu général, si on fait un état des lieux général, est-ce que vous diriez qu'on est au fond revenu à la situation de l'époque de Moubarak, ou est-ce que la situation d'aujourd'hui est un peu meilleure, même si elle se dégrade?
Elle est probablement pas meilleure. Si on prend le nombre de prisonniers politiques, par exemple, la dernière année de Moubarak en 2010, on avait 17 000 prisonniers dans les prisons du service de la sûreté de l'État.
Et aujourd'hui, on a combien?
Aujourd'hui, on en a 60 000, il me semble.
Ah oui, d'accord.
La répression, elle a vraiment changé d'ampleur. Sous Moubarak, bien sûr, il y avait un contrôle, un verrouillage de la scène politique, un contrôle de l'opposition, des arrestations arbitraires. Mais ça n'a plus aucun C'est plus comparable. La situation des frères musulmans, par exemple, est très intéressante. Sous Moubarak, ils étaient interdits mais tolérés. C'était l'expression
Aujourd'hui, ils sont considérés comme une organisation terroriste.
Voilà, c'est une organisation terroriste, donc l'appartenance, enfin, il n'y a plus du tout cette tolérance.
Leslie Pikmal, l'une des principales inquiétudes concerne la répression à l'égard des ONG et des journalistes. Commençons par les ONG. 2017, le pays vote une nouvelle loi de réglementation sur le fonctionnement des ONG. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'elle prévoit et les conséquences pour les ONG sur le terrain?
Oui, alors cette loi est extrêmement draconienne, au point d'avoir provoqué des réactions de grande inquiétude de toutes parts, soit la société civile internationale, des gouvernements européens, américains, des experts onusiens, etc. Cette loi viole également les garanties constitutionnelles égyptiennes sur la liberté d'association et les engagements internationaux de l'Égypte en la matière. Et pour résumer, elle a un effet de nationalisation de la société civile indépendante. Pourquoi ? Parce qu'elle étend, elle légitime le contrôle étatique des renseignements généraux, les ministères de défense, de l'intérieur, sur toutes les ONG égyptiennes ou étrangères présentes, actives sur le territoire national. Pour ce qui est de l'enregistrement, donc l'autorisation, du financement national et étranger, de l'administration interne, des activités, nature et contenu, des publications, de la collaboration avec des entités étrangères ou nationales, même onusienne. L'impact attendu, si la loi venait à être mise en œuvre très activement,
parce qu'elle l'est pas aujourd'hui, elle l'est pas aujourd'hui.
Elle est partiellement mise en œuvre. On a une situation aujourd'hui complexe où la loi n'a jamais reçu de décret d'application. Mais certaines de ces clauses sont mises en œuvre dans les décisions de ne pas autoriser l'enregistrement ou certaines activités d'ONG. En même temps, on continue à en mettre en œuvre certaines dispositions en pratique de l'ancienne loi, la loi de 2002 sur les associations. Donc c'est une situation d'une très grande opacité, très grande incertitude pour les ONG existantes. Et on voit effectivement déjà un rétrécissement de l'activité associative, y compris dans le champ humanitaire, développement.
Et sur la question des médias, parce que là aussi, c'était un peu plus récent, c'était en 2018, une nouvelle loi sur le contrôle des médias. Que dit la loi et est-ce qu'elle est, elle aussi, là pour le coup, appliquée, partiellement appliquée et appliquée comment ?
Oui, alors là, c'est effectivement assez spectaculaire. La loi de 2018 sur le Conseil suprême de régulation des médias, alors, elle n'a pas encore été mise en œuvre très très assidûement parce que c'est assez récent, hein, mais ça commence déjà. Elle complète finalement la mise au pas des médias qui avait déjà été largement entamée en Égypte. Tout d'abord, elle criminalise la publication de contenus définis avec des termes très vagues. Et elle permet que soit créé un Conseil suprême de la régulation des médias, donc qui va exercer une censure sur des critères très flous, ce qui ouvre la porte à l'arbitraire, évidemment. Et le début de sa mise en œuvre à l'automne 2018 avait déclenché la décision de quelques rares médias indépendants restants en Égypte, soit de cesser leur activité, soit de se déplacer, de partir en exil, quoi. Autre point important, c'est que cette loi s'applique également à tout blog, site web ou compte Facebook privé qui a 5000 abonnés ou followers. Ouais,
ça veut dire, Baudouin Long, concrètement, que cette loi, évidemment, s'applique aux médias traditionnels, la presse, la radio, la télé, mais qu'elle s'applique aussi sur les contenus qui sont diffusés sur les réseaux sociaux et que donc, ça peut atteindre n'importe quel site citoyens, finalement, qui publient du contenu politique ou jugé comme tel dans le cyberespace.
Tout à fait. N'importe quel compte Twitter avec plus de 5000 followers. Donc, c'est...
Mais il y a quand même des cas où on a peut-être un peu du mal à comprendre les choses. Je pense par exemple à Amal Fathi. Elle avait posté une vidéo dans laquelle elle dénonçait le harcèlement sexuel. Elle a été condamnée à 2 ans de prison. C'était en décembre dernier. Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? En quoi ce contenu est-il dérangeant pour les autorités?
Parce qu'il voit ça comme une atteinte à la réputation de l'Égypte. C'est pas un cas totalement unique, quoi. N'importe quelle diffusion comme ça qui montrerait que tout n'est pas parfait en Égypte est susceptible d'entraîner une réaction assez très violente.
Leslie Pikmal, c'est ça le problème, c'est que finalement elle sous-entendait que les autorités égyptiennes n'en faisaient pas assez sur la question des violences sexuelles, c'est ça?
Elle a mentionné cela effectivement dans sa vidéo. Il faut préciser que c'est une vidéo qui était au départ une vidéo personnelle. Elle rentrait chez elle le soir après avoir subi deux incidents de harcèlement sexuel particulièrement perturbants la même journée. Et elle a fait une vidéo qui n'était pas visible au grand public sur Facebook, la vidéo ayant été par la suite téléchargée par d'autres personnes et circulée. Effectivement, le second incident dont elle a été victime, c'était de la part d'un policier. Qui était chargée de la sécurité à l'entrée d'une banque où elle se rendait pour raisons personnelles. Donc, oui, forcément, là, il s'agit de la responsabilité de l'État et aussi, elle dénonçait dans cette vidéo tout simplement, plus largement, les carences de l'État pour l'affrontement de ce problème qui est très endémique en Égypte.
Par ailleurs, elle est aussi, et son mari également, militant dans une ONG de défense des droits de l'homme, connue et reconnue, et ça, évidemment, ça pose problème.
Effectivement. Alors, Amal, au moment de cette vidéo de son arrestation, n'avait pas, à notre connaissance, énormément d'activités politiques. C'est le cas de beaucoup de gens dans le climat actuel répressif en Égypte. Hein, l'activité s'est beaucoup réduite. Par contre, voilà, il est bien connu que son mari est le directeur exécutif de cette ONG, Egyptian Commission for Rights and Freedoms, qui est spécialiste de la documentation des cas de disparition forcée et également de torture, donc généralement associée à la disparition forcée. Ça, c'est une problématique particulièrement gênante pour les autorités égyptiennes au niveau international, en partie parce qu'elle est liée au cas du doctorant italien Giulio Leggeni, qui a été enlevé, torturé et tué entre janvier et février 2016. Et on présume que c'est effectivement les services de sécurité égyptiens qui en sont responsables. Donc, on a vraiment une volonté aujourd'hui, et ça c'est quelque chose à souligner, depuis fin 2017, depuis tout au long de l'année 2018 et jusqu'à aujourd'hui, une volonté des autorités égyptiennes d'essayer de faire taire les activistes, les défenseurs des droits humains, les avocats des droits humains égyptiens qui documentent, qui rassemblent des informations sur ces problématiques en particulier et donc dont les publications, les rapports vont aussi être consultés par les ONG internationales qui ont un grand public, notamment Amnesty, Human Rights Watch, FIDH, etc. Et qui vont atteindre voilà des experts onusiens, des gouvernements européens, le Parlement européen. On essaye de couper ce maillon de la chaîne. D'accord. Et donc c'est pour ça aussi que vous voyez de plus en plus d'actes répressifs qui servent spécifiquement de représailles contre les défenseurs des droits humains dans ces domaines-là.
Baudouin Long, le monde de la recherche en Égypte est particulièrement sous pression.
Oui, absolument. Bah, le cas de Giulio Reggiani a été provoqué un certain choc dans le monde universitaire, et je pense que les chercheurs qui vont aujourd'hui en Égypte et qui veulent faire un travail de terrain sont très prudents, notamment sur les thématiques sur lesquelles ils travaillent, quoi.
Ce qui fait qu'ils y vont de moins en moins aussi, c'est aussi.
Ce qui fait qu'ils y vont il y a une fermeture un peu. Alors ils peuvent y aller, hein. Il y en a encore qui y vont, et qui font leur travail, mais c'est quand même dans des conditions beaucoup plus tendues qu'elles n'ont pu l'être.
Leslie Pikmal, sur la question de la justice, parmi les cas notables de journalistes cette fois ciblés, il y a un photojournaliste qui s'appelle Mahmoud Abou Zed, qui est dit Shaoukan. Il avait été arrêté en août 2013, alors qu'il couvrait justement la dispersion de la place Rabat dont vous parliez tout à l'heure, au cours de laquelle la police et l'armée égyptienne avaient tué plus de 900 personnes en quelques heures. Il a été condamné en septembre dernier à 5 ans de prison pour meurtre et appartenance aux frères musulmans dans un procès à l'issue duquel quand même 70 personnes ont écopé de la peine capitale. Or, Shaoukan, ça fait déjà 5 ans qu'il est en prison, mais il n'est toujours pas libre.
Effectivement, donc ayant été arrêté en août 2013 et condamné à 5 ans en août 2018, ça lui faisait déjà 5 ans en détention préventive, en première instance. Et donc, il devait être libérable, lui et plus de 230 autres dans le même cas, dans cette affaire qui est un procès de masse dans lequel 739 personnes étaient accusées et les 739 ont été jugées coupables, sans exception. Chokarn et ses 230 et quelques compagnons ont en fait également été condamnés à payer une amende pour dommages, prétendus dommages hein, aux bâtiments, installations dans la zone de la Brun suite à la dispersion de la manifestation. Amende qu'ils n'ont pas payée, évidemment. Dans le cas de Chokarn, pour la bonne raison que le montant de l'amende n'a jamais été communiqué à ses avocats, apparemment. Mmh. Et donc, pour non-paiement de l'amende, ils prennent 6 mois de plus. Donc, ces 230 et quelques citoyens égyptiens, plus Chokarn, seraient en théorie libérables vers la mi-février. Nous attendons de voir s'ils sortiront effectivement de prison. Et c'est un scandale. Encore une fois, on a 739 personnes jugées coupables, 739 personnes arrêtées à ou aux alentours du site de ce massacre en août 2013. Mais qui, en fait, est l'auteur du massacre? Ce ne sont pas ces 739 personnes. Donc on a toujours une impunité totale dans ce cas et qui va probablement être confortée par une nouvelle loi adoptée l'été dernier en Égypte et ratifiée par Abdel Fattah al-Sissi, le président, permettant au président de choisir à son gré des officiers, des hauts gradés, et de leur donner l'immunité à toute poursuite judiciaire pénale en Égypte ou à l'étranger pour des crimes commis dans des périodes entre 2011-2012 et 2013-2014-2015, où la Constitution a été suspendue et avant le début des travaux de la nouvelle Assemblée du peuple en janvier 2016. Et donc ça comprend le massacre de la Brun en 2013, d'autres incidents violents de l'été 2013, mais aussi le massacre de Maspero en octobre 2011 contre des chrétiens manifestants pour l'exercice de leurs droits au culte, etc.
Donc Chokarn qui reste encore en prison, c'est évidemment une très bonne manière de museler les journalistes et de les tenir bien en laisse, j'allais dire, Baudouin Long. Il y a d'autres manières aussi de le faire, parce que outre la loi de régulation des médias, outre ces emprisonnements, on a aussi observé beaucoup en Égypte ces derniers mois une reprise en main des médias par les voies économiques, c'est-à-dire qu'on a des médias qui ont été rachetés par des gens qui sont des proches du pouvoir pour mieux les contrôler de l'intérieur. C'est aussi un élément du décor, hein.
Oui, c'est quelque chose qui est déjà assez ancien, puisqu'une partie de la presse en Égypte est gouvernementale, l'autre partie est privée, et dans cette partie privée, en effet, il y a aussi des investisseurs qui sont parfois proches des services, ou donc il n'y a pas d'indépendance. Je pense qu'il y en a vraiment encore moins que sous Moubarak, où il y avait encore une possibilité d'exprimer avec des lignes rouges qu'était le président et l'armée, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça.
Oui, c'est ça qui apparaît aussi, c'est que Leslie Bikmal, précisément, les lignes rouges, on ne sait plus exactement où elles sont.
Exactement, ouais. C'est la plus grande incertitude, et ce qui va encourager tous les médias encore actifs à l'autocensure. Quand on voit des cas comme une jeune journaliste, Alexandrie, qui faisait un micro-trottoir sur le tram, qui a été arrêtée et accusée de nuire à la sécurité nationale ou je ne sais quoi. On a vraiment des cas aberrants. On a aussi des cas maintenant de disparition forcée et torture de journalistes et de ce qu'on appelle plus largement en anglais media workers, qui sont par exemple des caméramen ou des assistants de l'équipe de tournage. Ça incite au silence.
Je vous arrête parce qu'on va en parler tout de suite des disparitions forcées, mais d'abord on va écouter le témoignage justement de Nour, une victime d'une disparition forcée, extrait d'un documentaire, d'un reportage qui avait été diffusé sur BFM. Écoutez.
Au commissariat, il y a ce qu'on appelle la fête de bienvenue pour chaque nouvel arrivant. En gros, tous les officiers ont le droit de vous frapper autant qu'ils le veulent. À ce moment-là, ma famille ne sait absolument rien. Elle ne sait pas pourquoi je suis arrêté, où je suis. Les policiers cachent volontairement l'endroit où vous êtes détenu.
Depuis que les forces de sécurité m'ont pris mon fils, on n'a aucune nouvelle. On a déclaré sa disparition dans un commissariat, mais ils ont refusé d'ouvrir une plainte. On a essayé encore et encore dans plusieurs postes de police. Ils ont dit qu'ils ne savent pas où il est.
Baudouin Long, l'ampleur de ce phénomène des disparitions forcées et l'interprétation finalement, comment comprendre qu'il se soit à ce point multiplié ces derniers mois?
Je pense qu'il y a une... fait, il y a une fébrilité. D'abord, il y a un héritage qu'il faut bien prendre en compte, c'est-à-dire que d'un appareil policier pléthorique qui surveille tout, donc cet héritage, il est présent, il n'a pas disparu avec la révolution, et l'appareil sécuritaire, il est resté en place. Aujourd'hui, en plus, ce qu'on a, c'est qu'on a une vraie fébrilité du régime qui, vis-à-vis d'une part de toute contestation, qu'elle soit politique ou journalistique, etc., et aussi, je pense, de Sissi qui doit faire ses preuves vis-à-vis des gens qui l'ont porté au pouvoir, ses collègues généraux, et je pense qu'il a vraiment peur qu'on lui demande des comptes et qu'on lui dise, qu'on lui reproche une certaine instabilité. Et pour eux, cette instabilité, elle réside dans toute voie un peu libre dans le multipartisme, la répression, elle tient aussi à cette peur personnelle de Sissi.
Leslie Pikmal, sur ces disparitions forcées, et peut-être un cas particulier qui est assez intéressant, qui est celui d'Ismaël Khalil, parce que en fait, c'est pas à lui qu'on reprochait directement des choses, mais c'est à son frère, et c'est lui qu'on a visé.
Oui, tout d'abord, Ismaël Khalil, le pauvre, a été victime de disparition forcée et torture à deux reprises. Et la première fois, c'était effectivement les forces de sécurité qui venaient chercher son jeune frère Nour Khalil, jeune activiste. Nour n'étant pas là, ils ont pris son frère. Pratique assez fréquente des autorités égyptiennes. Et ils ne l'ont pas simplement inculpé, ils l'ont fait disparaître. Voilà. Donc, on sait plus de détails aujourd'hui parce que Islam a été finalement, après plusieurs années, libéré. Et on a eu des témoignages de sa part il y a un an et demi environ. Il a raconté donc cette première période de disparition forcée. Ce qui vous arrive dans ce cas-là, c'est essentiellement, on vous amène à un lieu de détention inconnu, vous ne savez pas où vous êtes, souvent les gens ont les yeux bandés, et on leur inflige des tortures physiques et psychologiques à eux et à beaucoup d'autres. Et tout ça, c'est essentiellement sous le contrôle d'un appareil qui est chapeauté par le ministère de l'Intérieur et qui s'appelle la Sûreté de l'État. L'Amn al-Watani, renommé ainsi en 2011 et existant auparavant sous le nom de l'Amn al-Dawla. Et voilà, donc, longue période de torture physique et psychologique, pour extraire des aveux, pour un crime dont on soupçonne réellement ou pas que vous ayez commis. Parfois, il faut un coupable, donc voilà.
Et ce sont des cas qui ne font jamais l'objet de procès. Ça n'arrive jamais.
Alors, procès à leur encontre.
Les violences policières, les violences policières, c'est l'impunité la plus totale, je veux dire.
Oui, essentiellement. Donc, ces personnes-là, soit elles disparaissent de manière permanente, elles ont été probablement tuées, soit elles restent très longtemps dans des lieux de détention secrets, car il en existe en dehors des prisons connues, soit elles réapparaissent au bout de plusieurs jours, semaines, mois. En détention préventive et donc peuvent rester encore très longtemps en détention arbitraire. Mais pour ceux qui commettent ces crimes de torture et disparition forcée, oui, l'impunité est quasiment totale. Il est très très rare qu'on ait un procès, et encore plus rare que ce procès mène à une condamnation. Encore plus rare que la condamnation soit soutenue, soit confirmée en appel. Et il s'agit, quand ça arrive, et encore une fois, c'est extrêmement rare, c'est sur quasiment toujours des policiers de très bas rang. Donc finalement, cette politique, elle vient du sommet de l'État, elle vient, et en particulier du gouvernement et du ministre de l'Intérieur. On voit un changement qui date de 2015, quand Magdi Abdelrafor a été nommé ministre de l'Intérieur. Et c'est vraiment là qu'on voit s'accélérer les chiffres des cas de disparition forcée et donc également de torture. C'est une politique pour laquelle il y a de hauts responsables, c'est clair, et ils doivent en rendre des comptes.
Baudouin Long, Leslie Pikmal nous dit que c'est finalement l'impunité générale. Aucun policier qui aurait commis des violences n'est poursuivi jamais. Au moment des révoltes populaires, on se souvient que les manifestants avaient mis en déroute les policiers et que c'est l'armée qui était venue en renfort pour protéger les sites stratégiques. stratégique qui avait finalement décidé de laisser tomber le régime et de se placer du côté du peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, les policiers ont repris leur place? Quelle place a la police dans le dispositif sécuritaire général aujourd'hui en Égypte?
En fait, aujourd'hui, c'est vrai que quand l'armée est intervenue en janvier 2011, elle a suppléé partiellement au rôle qui était assumé jusque-là par le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire jusqu'en 2011, en fait, l'armée s'occupe très peu de problématiques
de maintien de l'ordre,
de problématiques sécuritaires internes ou de elle a pas un rôle de police politique. En 2011, il y a une débâcle des forces de l'ordre, il y a une désorganisation assez profonde, mais il n'y a pas une disparition non plus, donc les structures, elles restent là.
Et elles ont repris leur place aujourd'hui ?
Et elles ont repris leur place aujourd'hui. Je pense que pendant toute la période de transition, on a eu donc une police qui continue quand même à fonctionner, à incarcérer, à torturer, à faire ce qu'elle faisait déjà avant, mais on a aussi une implication plus importante des renseignements militaires dans la surveillance des opposants politiques.
Est-ce que ça veut dire, que, si je vous comprends bien, que finalement le rapport de force entre le ministère de l'Intérieur d'un côté et le ministère de la Défense de l'autre a changé et qu'aujourd'hui il est bien plus à l'avantage du ministère de la Défense, de l'armée en l'occurrence? Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, complètement. Complètement. Enfin, c'est vraiment une des conséquences de l'entrée de l'armée. De la prise en charge par l'armée de la transition en 2011, qu'elle assume un rôle beaucoup plus important dans la politique intérieure sécuritaire, mais aussi dans l'économie, etc. Et depuis le coup d'État contre Morsi en 2013 et ensuite l'élection de Sissi, au début on a vu que la direction du renseignement militaire continuait à avoir un rôle un petit peu de surveillance des opposants, avec cette excuse que tout opposant des frères musulmans par exemple était considéré comme terroriste ou... mais je crois que depuis, notamment depuis le début de son deuxième mandat, il y a quand même un recentrage des spécialistes. Enfin, chaque service retourne un peu à sa propre spécialité. On voit bien ce que disait Leslie sur Amnel Ouattani, la sécurité nationale, qui est vraiment en charge.
Leslie Pikmal, vous êtes d'accord, effectivement, chacun est revenu un peu à ses prérogatives, ou est-ce que réellement on a, comme je le disais tout à l'heure, un rapport de force qui a complètement changé et une forme de subordination à peu près totale de la police vis-à-vis de l'armée?
Alors oui et non, non. On a une certaine incertitude aussi au niveau des réponses, dans la mesure où les informations dans ce domaine-là vont être forcément incomplètes. Alors d'un côté, je dirais que effectivement, le poids de l'institution militaire dans ce régime sous sa forme actuelle est beaucoup plus important. On voit cela aussi au niveau des conseillers, qui sont proches d'Abdel Fattah el-Sissi. Et aussi, par exemple, le fait que, c'est aussi les renseignements militaires qui vont un petit peu surveiller le travail d'autres parties du gouvernement, notamment le travail des diplomates du ministère des Affaires étrangères, donc qui sont en poste dans des ambassades égyptiennes à l'étranger. Par contre, ça ne veut pas dire que le ministère de l'Intérieur est affaibli en Égypte comparé à avant 2011. Non. Il y a vraiment, comme l'a mentionné rapidement Baudouin, il y a vraiment une grande revanche, un grand retour de la police toutes ses formes également depuis post-2013, quoi. Après, pour ce qui est des rapports de pouvoir entre intérieur et défense, renseignement militaire, ça c'est beaucoup moins lisible pour nous évidemment, mais il est clair que si pour s'assurer un contrôle très très important du système et de la situation sur le terrain en Égypte doit satisfaire tout le monde, d'accord. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez une impunité quasi totale des forces de police et de la sûreté nationale pour des crimes très très graves commis à l'encontre des citoyens civils, quoi. Il doit protéger également la police, l'intérieur, s'il veut s'assurer leur totale fidélité au moment d'un scénario de rébellion, de soulèvement de nouveau comme en 2011. Et je crois que c'est important de mentionner ça aussi. Baudouin a mentionné la fébrilité, la sensibilité des autorités égyptiennes quant à la moindre velléité de critique dans les médias, les réseaux sociaux. Oui, c'est aussi parce que Abdel Fattah Sissi, contrairement à Moubarak, a observé le soulèvement de 2011, la révolution de janvier février.
Et il en a tiré les leçons.
Voilà.
On est avec vous, Leslie Pikmal et Baudouin Long, dans cette série consacrée à la police du Caire à Tunis, la société sous bonne garde. On va prendre justement la direction de Tunis.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on se souvient qu'en 2011, la Tunisie avait ouvert la voie à ce mouvement insurrectionnel qui avait traversé tout le monde arabe, les fameux printemps arabes. À l'époque, la police tunisienne y occupait une place politique stratégique. Rappelons que l'ancien président Ben Ali était issu de ses rangs et qu'il était le patron de la Sûreté Nationale, la DSE, sous Bourguiba, juste avant de prendre le pouvoir par un coup d'État, on s'en souvient, en novembre 87.
Les Tunisiens sont sauvés à jamais du cul de la personnalité. Moi-même, d'ailleurs. Bien sûr... Il est difficile de se débarrasser de certaines traditions qui durent depuis des années. Quant à moi, je reste vigilant. Et j'aimerais qu'on m'appelle carrément, tout court, le président Ben Ali. La Tunisie était menacée d'implosion. Les institutions étaient bloquées. La loi bafouée. La société paralysée. C'était en quelque sorte la loi, l'état de l'arbitraire. Depuis 10 mois, nous prenons des mesures quotidiennes en faveur des citoyens. Et à ma connaissance, l'opposition, le comportement et la réaction de l'opposition est très encourageante.
Voilà, donc Ben Ali, qui aimerait bien qu'on l'appelle président, c'était en septembre 88, donc quelques mois après le coup d'État. Et de fait, durant toute sa présidence, il est resté de facto le chef de la police avec un pays qui en réalité était un État policier. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelle place la police a-t-elle dans le paysage politique? Quelles sont les réformes qui ont été réalisées depuis la chute de Ben Ali? Tout de suite, on va retrouver Kansa Bentarjem. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous en direct par téléphone. Vous êtes doctorante au Centre de recherche sur l'action politique de l'Université de Lausanne et vous avez participé à cet ouvrage collectif Tunisie, une démocratisation au-dessus de tout soupçon, point d'interrogation, qui était paru aux éditions du CNRS. Et vous racontez au début de votre article que quelques jours après la chute de Ben Ali, les policiers manifestent devant le ministère de l'Intérieur, demandant pardon pour avoir été l'instrument de la répression, brandissant des pancartes sur lesquelles on peut lire « Plus de tyrannie, plus de peur, la police avec le peuple ». Et pourtant, vous dites aussi que, eh bien, 7 ans après la chute du Raïs, je vous cite, « L'édifice sombre qui abritait différents services du ministère de l'Intérieur avec ses geôles où des opposants subissaient des sévices n'a pas changé. Les agents en fonction sont les mêmes, mais le régime politique et l'institution sécuritaire en plein bouleversement. » Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Au fond, les pièces qui composent l'appareil sécuritaire sont les mêmes, mais leur agencement et les règles de fonctionnement ont été modifiées. C'est comme ça qu'on pourrait dire les choses, Kansa Bentarjem?
C'est plus ou moins ça, c'est-à-dire c'est le régime politique qui a changé, effectivement. C'est-à-dire, on vient d'écouter le cas de l'Égypte, et la Tunisie aujourd'hui n'est pas dans la même configuration égyptienne. C'est-à-dire que effectivement là le ministère de l'Intérieur, les hommes sont restés les mêmes, mais les limites de leur ils ne peuvent plus faire comme avant, c'est-à-dire les violences policières persistent, il y a encore des relents du passé, on a encore la torture qui persiste, on a encore des violences policières, mais ce n'est plus comme avant.
C'est-à-dire, c'est plus comme avant. Il n'y a plus un caractère systémique de cette violence policière, c'est ça que je dois comprendre?
Exactement. Mm-hmm. C'est-à-dire, la liberté d'expression, c'est-à-dire, on ne va plus arrêter des opposants parce qu'ils sont simplement des opposants. Ou en tout cas, on va arrêter certaines personnes, mais il y a une liberté d'expression qui est assez garantie. On ne va pas réprimer systématiquement les mobilisations, c'est-à-dire les manifestations ou mobilisations sociales. Il y aura parfois des violences policières dans certains cas, mais ce n'est plus systématique. Et ça a changé.
Mmh. c'est plus systématique, mais quand on regarde un peu les choses, il y a quand même des cibles privilégiées pour les policiers. Je pense par exemple aux journalistes, les tensions sont extrêmement fortes, il y a souvent des affaires, des heurts. L'année dernière, par exemple, il y a quand même un policier qui a appelé à violer les journalistes. Alors, on voit bien quand même qu'on n'a pas trouvé le régime d'équilibre, si je puis dire, par lequel l'institution policière respecterait le droit à informer, respecterait les journalistes. Ça, c'est quand même très prégnant.
Ah mais c'est ce que je dis. Quand je dis qu'il y a une, on est dans un entre-deux, on est dans un régime où l'ordre ancien est encore en place. Mais il est vrai que c'est-à-dire les violences contre les journalistes, elle n'est pas quotidienne. Il est vrai. Mais l'année dernière, les journalistes ont régulièrement des problèmes avec les syndicats de police ou avec les policiers. C'est souvent en région qu'il y a des soucis avec les forces de l'ordre, c'est-à-dire quand un journaliste va faire son travail dans des quartiers populaires ou d'autres, il risque, même si ses papiers sont en règle, d'aller passer quelques heures au poste. Mmh. Et donc ça reste réel. Et quand je dis aussi que les violences policières persistent dans les commissariats, c'est plutôt dans des cas de prisonniers de droit commun, ou les gamins dans les quartiers populaires qui se sont arrêtés de manière arbitraire. Et cet arbitraire, il persiste. Mais en même temps, il n'est plus aussi systématique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un état aussi policier qu'avant. Et c'est ça aussi ce qui fait la particularité de la Tunisie, c'est que les lignes rouges ont bougé. C'est-à-dire avant, on ne pouvait pas s'asseoir dans un café, parler politique, en étant tranquille. On ne peut pas faire des recherches sur la politique sur Internet ou aller sur le site du Monde ou n'importe quel site pour chercher des informations sur la Tunisie sans risquer d'avoir la police à notre porte. Ce qu'il y a aujourd'hui a changé.
Oui. Est-ce que vous disiez qu'évidemment les journalistes avaient régulièrement des problèmes avec les policiers, mais est-ce que les policiers peuvent aussi avoir des problèmes avec la justice ou est-ce qu'on est toujours dans un cadre d'impunité assez général, comme on le décrivait à l'instant avec Baudouin Long et Leslie Pikmal du côté de l'Égypte? Est-ce qu'il arrive parfois que de policiers soient inquiétés dans le cadre de violences?
Oui, ils sont inquiétés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont souvent punis. C'est-à-dire, on est quand même dans une logique d'impunité assez forte. Il y a eu quelques condamnations, c'était un cas emblématique.
Les policiers inculpés pour le décès d'un supporter l'année dernière.
Non, là, le procès est encore en cours. C'est-à-dire, il y a eu des policiers qui ont poursuivi un supporter. Il a été obligé de se jeter dans l'eau pour le réchapper. Et au lieu d'aller le sauver, ils l'ont laissé mourir. Selon les témoins, ils lui ont dit « apprends à nager ». Et il est mort. Et donc là, ils sont inculpés pour homicide involontaire et pour non-assistance à personne en danger. Donc, c'est là où le bas blesse, c'est que les policiers se sont organisés en syndicats après la Révolution et qu'ils exercent beaucoup de pression sur la justice pour que les policiers ne soient pas inquiétés. Et cela s'est manifesté notamment dans les procès de la justice transitionnelle, c'est-à-dire les policiers accusés de violation des droits de l'homme. Bon, les procès ont été portés par l'instance d'unité chargée de l'instance chargée de la justice transitionnelle en Tunisie. Et les syndicats ont demandé aux policiers de ne pas assister à leur procès, ce qui bloque tout le processus, parce qu'on n'a pas de témoins, puisque c'est très difficile de les inculper. Par contre, il y a eu un cas, c'est-à-dire le cas où une jeune femme a été violée par des policiers et ça a été prouvé, une énorme mobilisation de la société civile à l'époque, et là ont été condamnés. Mais leur avis, c'est plus l'impunité.
Oui, d'accord. Khansa Bentarjem, à l'époque de Ben Ali, la police était extrêmement efficace pour contrôler la société. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 2011, la police a justement beaucoup de mal à garantir la sécurité de la population, beaucoup de mal à contenir par exemple la poussée salafiste, à gérer l'instabilité à la frontière avec la Libye. Et la question que vous vous posez dans l'article, c'est, je vous cite, pourquoi cette police parvenait à être aussi efficace en contexte autoritaire et pourquoi elle n'y parvient plus aujourd'hui? Est-ce que vous avez un début de réponse? Pourquoi la démocratisation du régime a rendu la police tunisienne aussi inefficace?
peut-être une piste, c'est-à-dire ça, ça reste encore des hypothèses, mais la structure de la police des services de sécurité en Tunisie a été faite sur mesure dans un régime pour un régime dictatorial, non pas pour un régime démocratique. Mmh. Ce qui fait est un régime de parti unique. Deux éléments très importants, c'est-à-dire, pourquoi je dis ça ? Le parti était chargé aussi de l'encadrement de la population et du renseignement. C'est-à-dire, quel que soit, on avait des informateurs partout, et le parti qui quadrillait tout le pays, il pouvait avoir ses informateurs dans chaque petit village. Et donc, chaque petit geste qu'une personne peut faire dans un petit coin perdu de la Tunisie peut remonter au parti, et par là remonter au ministre de l'Intérieur et au service de sécurité. Ce qui fait que le système d'information, de renseignement, ne se basait pas uniquement sur le sur les services de renseignement, mais aussi sur le système du parti, sur les renseignements du parti. Ça, c'est un point. Deuxième point, c'est que on avait aussi cette installation de la peur, c'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire qu'il y avait une autocensure, les gens s'empêchaient de faire ce qu'ils voulaient parce qu'ils avaient peur. Il y avait une chape de plomb de la peur qui faisait aussi en sorte que l'engagement était extrêmement difficile. Mais ça ne voulait pas dire que les services de renseignement étaient forcément efficaces parce qu'ils étaient bien conçus.
Mmh. Oui, j'entends bien. Vous restez avec nous, Ransa Bentarjem. Je voudrais peut-être faire un jeu de miroir avec les situations égyptiennes et demander à Baudouin Long et à Leslie Pikmal ce qu'il en est du côté de l'Égypte. Et Ransa Bentarjem nous disait que la force aussi, d'une certaine manière, de la police tunisienne, c'était que la population elle-même faisait partie du dispositif sécuritaire. Est-ce qu'on peut, en donnant des informations aux autorités, est-ce que c'est le cas aussi du côté de l'Égypte ? Est-ce qu'aujourd'hui encore, ou à nouveau d'ailleurs, les Égyptiennes, les Égyptiens font partie, j'allais dire, du dispositif sécuritaire et effectivement alimentent également ce dispositif, et notamment en donnant un certain nombre d'informations, en coopérant avec les services sécuritaires. Baudouin Long.
Oui, je pense, c'est vraiment la manière dont fonctionnent ces services de sécurité. C'est le Amnel Daoula, donc la sûreté de l'État, sous Moubarak, je pense que ça n'a pas trop changé. On était à 100 000 effectifs. Pour vous donner un ordre, si on veut comparer avec la France, la DGSI, ça doit être 4 000 personnes. Donc c'est avec 100 000 policiers dédiés à la sécurité, à la police politique.
Mais est-ce que les citoyens eux-mêmes continuent d'alimenter justement ces renseignements et cette police ?
Ben ils sont contraints en fait. Ouais. Ils ont pas le choix. C'est-à-dire que c'était un exemple assez connu. C'est les bawabs, les concierges des immeubles doivent rendre compte de ce que font les gens dans l'immeuble, de ce que des allées venues, des invités, et ça ce système,
et ça c'est toujours le cas aujourd'hui.
Je pense qu'il est, c'est, ça ouais, n'a pas ouais. trop changé.
Leslie Pikmal.
Oui, effectivement. Alors vous avez ce phénomène de longue date. Vous avez d'autres développements. Notamment, on essaye depuis un an ou deux vraiment d'encourager aussi la population dans son ensemble à dénoncer la dissidence, des actes ou paroles dissidence d'autres. Je sais pas. Après, c'est difficile de mesurer évidemment sans données objectives. Dans quelle mesure A, ils le font, et dans quelle mesure B, les autorités agissent vraiment sur ces dénonciations. Mais c'est un phénomène inquiétant. On essaye de faire dénoncer à tout un chacun n'importe quel acte de dissidence en prenant pour excuse l'idée de fake news, de fausses informations, dénoncer des gens qui diffusent des faux contenus, soit à l'écrit, soit voilà. Et d'autres je pense éléments à signaler là qui qu'on voit moins aujourd'hui mais qui pourrait réapparaître, c'est l'utilisation de civils dans la rue pour réprimer des manifestants avant et après 2011, aux côtés finalement des forces de l'ordre, que ce soit la police anti-émeute, qui est composée de conscrits militaires en Égypte, d'autres corps de police, ce qu'on appelle des baltagaya, des gros bras, si vous voulez, des gens qui sont payés pour aller taper des manifestants, les intimider, semer la terreur. Et vous avez enfin des indiques divers et variés, dont font partie les baweb, effectivement, les portiers des immeubles. Et d'autres personnes qui continuent à faire ça de temps en temps. Évidemment, là aussi, c'est le plus grand flou. On peut pas avoir des chiffres. Mais voilà, c'est ce qui fait que l'Égypte, c'est effectivement aujourd'hui un régime militaire, mais on a vraiment également un caractère policier de la répression.
Khamsa Ben Darjem, je me retourne vers vous et ça sera ma dernière question parce que l'un des problèmes, j'allais dire, en Tunisie, c'est que le pays a très régulièrement été soumis au régime d'état d'urgence. Et il se trouve qu'il y a un projet de loi justement au Parlement qui prévoit la possibilité de déclarer l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire en cas de danger imminent, l'ordre public et la sécurité des personnes et des institutions. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'il y a dans ce nouveau texte? Et plus généralement, est-ce que vous diriez qu'il y a une utilisation abusive de l'état d'urgence ou est-ce que finalement, compte tenu des menaces réelles qui pèsent sur la stabilité du pays, des efforts qui restent à produire pour poursuivre sur le chemin de la démocratie, il est assez normal d'y avoir recours. Évidemment, on regrette tous, bien sûr, l'état d'urgence, c'est jamais souhaitable. Hein, ça correspond, ça veut dire quand même des restrictions de liberté. Mais au fond, on peut aussi considérer que c'est nécessaire et qu'on peut aussi en faire un usage, disons, tempéré. Votre regard sur cet état d'urgence en Tunisie, Khamsa Ben Darjem, et ce sera ma dernière question.
Donc, l'état d'urgence c'est un état d'exception et qui est censé rester un état d'exception. Sauf que déclarer l'état d'urgence de manière récurrente depuis 2011, on n'est plus dans l'exception, mais dans l'exception figure. Et je pense que autant on a eu des menaces ciblées pendant les moments où les menaces étaient assez fortes, mais on peut pas dire que sur les 8 ans, la menace est la même. C'est-à-dire la situation quand même s'est beaucoup améliorée. Il y a des périodes où quand même, la situation sécuritaire ne nécessite plus que le pays soit sous un régime d'exception.
Parce que la menace terroriste n'est plus là ? C'est pas ce que disent les responsables tunisiens.
Mais la menace terroriste est là dans tous les pays du monde.
Bien sûr.
Et ça, c'est réel. Je veux dire, au bout d'un moment, si on va... la menace terroriste existe. Elle n'est pas... c'est pas quelque chose d'illusoire. Mais il y a d'autres moyens aussi de combattre la menace terroriste. Et je me pose la question sur l'efficacité du dispositif de l'état d'urgence. C'est-à-dire, on ne sait pas combien l'état d'urgence a permis d'arrêter le terrorisme, mais par contre, on sait qu'il est utilisé. Il n'est pas appliqué de manière stricte. Hein. Juste pour être clair, les manifestations ont lieu, on a des grèves, on a des manifestations, on a des mouvements sociaux, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est une épée de Damoclès sur la tête de tout le monde. Et en plus, cela justifie des perquisitions sans mandat judiciaire, même pour des affaires qui n'ont rien à voir avec les questions terroristes. Il permet d'imposer des restrictions à la libre circulation.
On comprend l'idée, c'est-à-dire pour vous, il y a clairement un usage abusif de ce régime d'état d'urgence. Merci infiniment, Khamsa Ben Darjem. Je rappellerai l'ouvrage auquel vous avez participé, Tunisie, une démocratisation au-dessus de tout soupçon. Vous concernant, Baudouin Long, merci également d'avoir été avec nous. Je rappellerai l'Égypte de Moubarak à Sissi, qui était paru chez Cartala. Et je remercie également infiniment Leslie Pikmal, qui a été avec nous en duplex de Bruxelles.